Je dirais d'abord, je comprends très bien ce que vous dites. Je suis religieuse d'abord. Hein? Ça fait 52 ans que je suis sainte de la charité d'Halifax. Je crois que la question est d'abord et avant tout le fait que nous devons reconnaître que dans les communautés religieuses, comme dans les diocèses, il se sont passées des choses vraiment terribles. Et parce que nous sommes toujours en connexion les unes avec les autres, que nous formons communauté, tous nous devons payer le prix de nos actions. Ceci ne veut pas dire qu'il faut créer dans les communautés religieuses. On veut soutenir, on veut appuyer les laïcs dans toute cette démarche. Mais toujours aussi, il ne faut pas non plus défendre les prêtres fautifs. Mais je voudrais que les religieuses et les religieux puissent reconnaître deux choses. Deux choses. D'abord, dans notre propre histoire à nous, dans la vie religieuse, malheureusement, nous nous sommes inclinés devant l'hiérarchie, statut spécial, obéissance au règlement et à la loi plutôt qu'à notre conscience et notre propre forme de cléricalisme, par notre très grande faute. C'est vrai. Moi, je connais des supérieures religieuses qui sont encore plus impérialistes que bien les évêques que je connais. Alors, tu sais, en tant que Irlandaise, là, quand ma mère me disait, là, je te pointe le doigt, mais quand tu pointes le doigt, là, tu le pointes à toi aussi. Alors, comme le disait le pape François, je suis pécheur, il faut que nous aussi nous la mettions. Mais ce que je voudrais faire de façon presque désespérée, me demander quelle est la génie de la vie religieuse, mais qui sommes-nous en tant qu'hommes et femmes appelés à vivre la vie consacrée? C'est une vocation prophétique. Hein? Une partie de notre problème, notre capitulation là, devant ces pathologies, c'est que nous avons oublié. Nous ne faisons pas partie de l'important, de l'invisible. Nous tenons sur comme le bord de l'Église formelle. Et le prophète, on doit se rappeler, quel est le rôle du prophète? Le prophétique va en fait, et nous avons eu des religieux et des religieuses, Brueggemann par exemple, a écrit là-dessus, il nous a tellement aidé à mieux comprendre, nous les membres de l'Église. Mais le prophète se lève, c'est pas du tout pour prédire l'avenir, mais c'est tenir debout et dire au peuple de Dieu, voici ce que le Seigneur nous a appelés à vivre, à être, mais regardez-vous maintenant. Qu'est-ce que vous êtes devenu? Quel Dieu, quel amour, quelle puissance de l'Esprit est-ce que vous manifestez dans votre vie? Alors, je crois même avec la diminution des effectifs. T'sais, regardez les prophètes. Hein? Ils ont toujours répondu en disant, oh, « Je ne peux pas le faire, Seigneur. Va voir quelqu'un. Va voir mon frère. Lui est plus vieux que moi. Il va savoir comment le dire beaucoup mieux que moi. » Non. Je pense qu'il faut redevenir prophétique. Vous savez, je vais le dire, si les hommes, les religieux, les religieuses, mais surtout les femmes, les religieuses, si nous ne pouvons pas faire appel à ce don énorme, les dons énormes de l'éducation et de la formation et la compétence et la confiance et la capacité de prendre la parole, écoutez, est-ce que vous avez déjà vécu un atelier préparé pour des prêtres dans les diocèses? Et j'en ai préparé plusieurs, j'en ai donné plusieurs. Et quand on a une rencontre de religieuses, c'est jour et nuit, là, c'est pas assez pour comparer. Vous avez les sœurs assises autour de tables rondes. Tout est lié, il y a un lien avec le tout. On nous demande de changer de place, de ne pas toujours nous asseoir avec les personnes que l'on connaît. Et si, dans une journée, un atelier organisé pour les prêtres, mais mon Dieu, vous posez la question, personne ne me répond. Nos prêtres, nos évêques, moi je dirais, sont très fatigués, épuisés. Ceux qui sont non fautifs sont au désespoir. Moi, je me souviens à Terre-Neuve, quand je suis allée la première fois, je n'ai plus porté mon code romain. Je ne peux plus porter mon col roulé, jamais quand je sors ou que je vais dans un aéroport. Moi, j'ai été témoin d'un prêtre qui est allé s'asseoir. Il portait son col romain et on attendait un avion à Winnipeg. Et je connaissais l'évêque, là. Ça fait bien des années. Une maman avec deux enfants, peut-être 8 ans, 12 ans, s'est assise à côté du prêtre et quand elle s'est rendue compte qu'il avait le col romain, elle a pris les deux enfants et elle est allée ailleurs. Alors, il faut reconnaître que on nous a enseigné, on nous a appris comment nous exprimer et à nous de prendre la parole parce que plus nous avons de clergé et nous avons plusieurs laïcs qui vont dire, mais sister nous, là, de quoi allez-vous parler cette semaine? La présentation va être sur quoi? Sur l'abus. Mais arrête donc de parler de ça, nous-là. Comme si on n'en parle pas, cette diagnostic était pour disparaître. Si on peut l'ignorer, qui est quelque chose qui est profondément pathologique, ça va finalement disparaître. Impossible, mais c'est impossible. C'est pourquoi je crois que nous avons reçu des dons énormes. Et nous avons des dons que nous pouvons contribuer, même à notre âge. Et on est capable de rompre le silence parce que non pas seulement les prêtres sont fatigués, les évêques, et souvent, ils ne vont jamais parler de la question de l'abus, sauf pour l'élaboration de politique. La plupart ne sont pas capables de l'aborder. Ils sont vraiment incapables intérieurement. Ils ne sont pas capables de faire face à leurs blessures intérieures. Et si vous ajoutez qu'avec le manque de prêtres au Canada, nous avons un grand nombre de personnes, je dirais plus que la moitié du clergé, qui a été éduqué, formé à l'extérieur du Canada. Ce sont des hommes de bonnes personnes, mais si vous provenez d'une culture où on n'a pas encore reconnu l'abus sexuel fait aux enfants comme un crime et une question importante sociale, vous allez être dépassé par ce qui se passe ici. Il y a 8 ans, j'étais dans un diocèse, j'ai préparé un atelier et j'ai fait l'introduction, j'ai parlé de l'abus sexuel et un jeune prêtre des Philippines, oui, il s'est identifié comme Filipino, un jeune, nous, au Canada, une personne âgée dans l'Église, il a levé la main et il a dit, « Sister Nula, je vous remercie de nous avoir présenté l'historique de l'abus sexuel fait aux enfants ici au Canada parce que là, aux Philippines, où je vis, nous n'avons pas ce problème-là. Ça n'existe pas. Alors, ce que nous voyons en Inde, dans la région subsaharienne, avec les missionnaires là-bas, nous savons fort bien que ce n'est pas un genre de licenciosité d'une révolution sexuelle qui a lieu seulement dans l'Occident. C'est vrai que nous avons des problèmes à le traiter, mais c'est une réalité qui fait partie de la vie de l'Église.